CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Alors, je suis en compagnie de Jean-Louis Chastan, président de l'association aéronautique montalbanaise de constructeurs amateurs. Bonjour monsieur Chastan.
Bonjour monsieur.
Merci d'être là sur CFM Radio pour nous présenter votre association, une association déjà de longue date hein, sur Montauban.
C'est la première association de construction amateur de Montauban qui a démarré dans des locaux rue Jeanne d'Arc. Ensuite, s'est associée ou a été hébergée par une autre association dans les locaux de l'aérodrome. Ces locaux ensuite ont été largement étendus sous l'influence à l'époque de Monsieur Rousselière. À l'époque, c'est un centre de constructeurs amateurs qui marchait très bien et qui était à ce moment-là adhérent au réseau des sports de l'air, qui est un réseau national qui regroupe les constructeurs amateurs de France. Puis Monsieur Rousselière est parti, il a été remplacé par une personne qui a cherché en fait à éjecter l'AMCA de ses locaux. Alors il a réussi pendant un certain temps, il a réussi aussi, enfin il essayait d'éjecter aussi des gens qui avaient participé au financement des hangars, parce que bon, effectivement, juridiquement, c'était pas très net. Et puis bon, on a résisté, je faisais partie en fait des deux, on a résisté, et maintenant la mairie s'en mêle, et la mairie veut faire place nette à Montauban, veut avoir des choses qui tiennent vraiment debout.
Donc, et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça tient pas debout, l'AMCA?
Non, ça veut dire qu'actuellement, l'AMCA est sans domicile fixe.
Ah.
Voilà, elle s'est fait virer de ses locaux et elle est hébergée par, comme ça.
D'accord.
Donc pour le moment... On est en, pour parler avec la mairie, je vous dis, qui veut faire place nette sur l'aérodrome, parce que la mairie, depuis 30 ans, s'est pas beaucoup occupée de l'aérodrome, mais il y a des petites féodalités qui se sont développées. Voilà. Et donc, on m'a demandé de donner un coup de main, donc j'ai accepté de...
Donc, pour le moment, vous êtes, sans domicile. J'imagine qu'il faut quand même de l'espace, pour une association comme la vôtre, puisque le but du jeu, c'est que des amateurs viennent et construisent leur avion.
Alors, c'est clair. Pour le moment, on n'a rien pour construire. Bon, il se trouve que moi, j'ai un hangar à côté dans lequel on peut construire un peu. Chacun construit un peu chez lui quand c'est pas trop grand. Mais bon, on est sans domicile fixe et même. Alors, en fait, dans l'association, il y a deux volets. Il y a le volet construction et il y a le volet vol. Et on a une école de formation d'ULM, de pilote d'ULM. Voilà, d'accord. Parce que maintenant, les ULM, ça ressemble beaucoup à des avions. On a même des avions de constructeurs amateurs qui moyennant quelques modifications mineures, deviennent des ULM.
D'accord. Donc voilà, ça se rapproche beaucoup, sauf que c'est pas, il y a pas les mêmes besoins de brevet pour un ULM que pour un avion. J'imagine.
Un brevet d'ULM avec 10 heures de vol, si la personne est assez réceptive, on y arrive. Mm-hmm. Un avion, il faut 40 heures.
Ouais. Alors vous-même, Jean-Louis Chastan, comment vous en êtes venu à cette passion? Parce qu'il faut que ce soit une passion quand même.
Oh bah attendez, moi quand j'étais gauche, je me voyais pilote d'essai. Bon, et puis, au fur et à mesure des études, je suis devenu ingénieur des arts et des métiers, au lieu de faire l'école de salon. Quand je suis sorti, je suis rentré chez Citroën, où j'ai été pilote d'essai de voiture.
Ah, ouais,
j'ai été responsable d'un service d'essai après.
Pas loin, mais...
et puis après, je suis au travers de Renault, où je travaillais, je suis arrivé à Montauban. Et j'ai créé la concession qui est Route de Paris, que j'ai vendue en 81. Et puis, bon, dans les années 77, un de mes amis m'a dit, tu devrais venir piloter. Alors, je dis, ça, c'est une bonne idée. J'ai commencé à piloter à ce moment-là.
D'accord.
Voilà. Alors, entre-temps, j'avais un avion que j'ai réparé, puis j'en ai construit un, puis bon, voilà.
Mais ça me paraît extraordinaire de construire un avion. C'est si simple que ça, qu'on peut le construire en amateur, un avion?
C'est pas simple, mais c'est pas compliqué non plus.
Mm-hmm. Comment ça se passe au sein de votre association? Il y a une entraide. Qui sont les gens qui construisent leurs avions? Est-ce que ce sont des ingénieurs? Est-ce que
il y a de tout. Moi, j'ai vu quand j'ai construit mon premier, j'ai vu un gars qui donnait la scie à métaux à deux mains comme ça, comme une carabine presque.
Ouais.
Bon, il a fini son avion. Évidemment, on lui a donné un coup de main. Oui, il vole avec, bien sûr. Bon, il n'est pas tout seul, il est encadré. Mais nous, je vous dis, en ce moment, cette partie-là, bon, on construit des avions, on en a construit, il y en a qui construisent chez eux.
D'accord.
Voilà, mais les gros morceaux, on est forcé de les faire à proximité de l'aérodrome.
Quand on parle de construction d'un avion, on parle de toutes les pièces, comment ça marche?
On fait toutes les pièces, enfin, sauf le moteur.
Sauf le moteur.
Le moteur, bon, c'est des moteurs, en général, enfin, soit à base Volkswagen, ou Porsche revu et corrigé, soit maintenant à base de Rotax. Voilà les...
Des moteurs de voiture. Ou de, non, non, c'est des moteurs spéciaux de...
Volkswagen, c'est des moteurs de Volkswagen, de combi, de Porsche, qui sont modifiés. Et les autres, c'est moteurs de Rotax, c'est plutôt des moteurs de motoneige ou des choses comme ça.
D'accord.
Motoneige ou bien jet ski.
Et pour le reste?
Pour le reste, eh bien, on prend du bois.
Tout
on
simplement.
Prend du bois, on fait,
on les on passe. On va chez Brico Dépôt.
Non, on va pas chez Brico Dépôt parce que.
C'est du bois spécial.
Non, c'est du bois spécial. Ouais. C'est du pin d'Oregon. C'est des bois spéciaux. Des bois qui ont des résistances connues. Les cols sont des cols connus aussi parce que c'est, faut pas mettre n'importe quoi. Mais ensuite, il y a des gabarits, il y a des plans, et puis on fait le travail. Après, il y a des pièces en ferraille, ben on fait les pièces en ferraille. On prend la scie, on coupe, on fraise, on tourne.
Comment c'est fait? C'est fait avec une ossature, et puis on recouvre ensuite de...
Voilà, c'est fait. Vous avez une structure, le fuselage ou les ailes, c'est une structure en bois. L'aile, c'est un longeron avec des nervures dessus qui donne la forme. Et ensuite, les bords d'attaque sont la partie avant de l'aile, est formé de contreplaqué fin, et le tout est recouvert d'une toile, qui ensuite est tendue, ça c'est très rigide. Le fuselage, il y a des parties qui sont entoilées, puis d'autres qui sont coffrées avec du contreplaqué. Puis ensuite, le tout est peint. Le train d'atterrissage, ça dépend ce qu'on met, des fois il faut l'acheter complètement complet, parce que on peut pas faire des trains aux pneumatiques, c'est hors de portée du bricoleur commun.
Il y en a qui font des hydravions chez vous ou pas?
Il y en a eu un moment, mais enfin bon, ça c'est l'hydraviation en France, c'est très difficile parce qu'il y a pas d'hydrobase. À part Biscarrosse.
La Biscarrosse, oui, la fameuse, c'est vrai, hein, c'était la première.
Hein, ouais. Ah ouais. Non, la première hydrobase, c'était Marignane, parce que Fabre, le premier qui a volé un hydravion, il a volé sur l'étang de Marignane. Un jour de Mistral, ça allait pas.
Je croyais que c'était... D'accord.
Non, c'était Marignane.
Et alors, donc je reviens un petit peu à l'AMCA, votre club. Vous avez une vie, vous êtes nombreux, vous faites des sorties.
On est une trentaine pour le moment, on fait quelques sorties, mais si vous voulez, pour le moment, notre vrai problème, c'est d'exister et de prendre racine. Voilà, bon, cette vie-là, pour le moment, ça tourne. On a des élèves, ils apprennent à piloter, et puis ils sont lâchés, et ils volent tout seuls après. On a deux ULM qui ont été construits par nous.
Sur lesquels vous apprenez à des élèves à piloter?
Sur lesquels on apprend à des élèves à piloter, voilà.
Ah, on va voir cette partie-là, si vous voulez bien, dans un instant. On écoute un petit peu de publicité sur CFM Radio. On reste attentif pendant la publicité. On ne va pas aux toilettes.
CFM à Montauban. 101.2. Événement sportif à Montauban, dimanche 9 février de 11h à 16h sur l'hippodrome de Montauban, demi-finale du championnat de France de cross-country. 11 courses, 1500 coureurs, avec Sophie Duhart, championne d'Europe, Benjamin Malati, numéro 1 français de marathon, 8 athlètes de l'équipe de France, dont Mathilde Sagne, junior du Montauban athlétisme. Demi-finale du championnat de France de cross, un événement à ne pas manquer le 9 février sur l'hippodrome de Montauban. Entrée gratuite. Message réalisé en partenariat avec Arcadie. Renseignements sur montauban.athlé.com.
Bonjour Rosendo.
Bonjour Luciane. Et bonjour Sylvie.
Bonjour Rosendo, bonjour Luciane. 15 ans de photos, de photo passion. Ensuite photo professionnelle plutôt 5 ans puisque je me suis installée il y a 5 ans de ça.
Bon, je suis une enfant de mai 68 et du féminisme et de ces luttes-là. Donc la famille passée après la réalisation personnelle et l'engagement politique.
Et je te pose aussi ta question un peu pour me remettre moi-même en cause. C'est pas une émission sur Rosendo.
Et je me souviens bien que j'avais signé des pétitions pour l'abolition de la peine de mort.
Bah c'est aussi peut-être parce qu'en Ukraine, les études d'architecture se passent un peu différemment. Donc les études, ça dure 6 ans. Et les premières 4 ans, la formation artistique est très forte. On a beaucoup de dessins, de peintures.
Puisque bon, je suis plus évidemment interprète qu'auteur-compositeur.
Musique, cinéma, littérature, photographie. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h. Rediffusion le mardi à 23h. Les rendez-vous de Rosendo, un artiste, une rencontre, une heure. Le lundi, 17h30, c'est sport.
Fédéral 1 avec Montauban et Rodez qui étaient sur les pelouses ce week-end.
Avec Jean-Claude Vigroux et Fada.
Moi, je pense que c'est même pas un problème de technique de jouer en 4-2-2, en 4-3-3, en 6-8-8, comme vous voulez, je m'en fous.
Pour le rugby, Fred et Jean-Claude Desfarges.
Le capitaine Romain Loga, on l'écoute.
À Périgueux, c'est évident que ça sera différent.
C'est des gaillards de 2m12, 140 kilos qui le rentrent dans le lard. Et sur un match, ils peuvent tout perdre.
Tous les lundis soirs à 17h30, c'est lundi sport avec nos Jean-Claude, nos David, Jennings et Fred.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Allez, on reprend notre discussion avec Jean-Louis Chastan, le président de l'association aéronautique montalbanaise de constructeurs amateurs, actuellement sans domicile fixe. Donc si vous avez un grand hangar quand même, hein, et que vous nous entendez.
Et un aérodrome.
Et un grand terrain à côté. Alors, Lénaïque, tu as une question.
Oui, je me demandais qui c'est qui testait les avions la première fois une fois qu'ils sont construits.
Eh bien, de toute façon, un constructeur ou bien il est expérimenté, il fait tout seul, ou bien il n'est pas expérimenté et il demande aux copains de l'aider. Quand on a monté un avion, on regarde déjà si le moteur marche bien, on le teste dans tous les sens, on fait des roulages au sol, et après on fait ce qu'on appelle un saut de puce, c'est-à-dire que sur la piste, on décolle, et puis quand on est à 2 mètres du sol, on coupe les gaz, on se repose. On fait ça plusieurs fois, et puis quand on voit que ça marche, eh ben on se lance.
Ça plane un peu quand même si le moteur tombe en panne ou
pas? De toute façon, un avion, ça plane, mais ça plane pas longtemps. Ça plane à peu près 10 fois sa hauteur.
Oui, donc il faut avoir du dégagement. Hein, parce que
sinon... Oui, non, non. Quand on est sur une piste, en 200 mètres, on est largement en l'air, on a encore 800 mètres pour s'arrêter. C'est pas un problème.
Vous donnez des cours de pilotage sur ULM, hein, c'est
sur
ça?
Sur ULM, oui. C'est pas la même réglementation que les avions.
Et c'est donc, très différent à piloter, par exemple.
C'est pareil, ce sont les mêmes avions.
Qu'est-ce qui différencie un ULM d'un petit avion comme ceux que vous construisez?
La réglementation, c'est tout. Un ULM doit pouvoir se poser à moins de 65 km/h et faire moins de 450 kg au décollage, c'est tout.
D'accord. Et vos avions, c'est ce qu'ils font la plupart du temps?
Ils se posent à 70 km/h et ils font 470 ou 480 kg. Mmh. Donc il suffit de les amerrir un petit peu et puis de modifier légèrement les volets pour qu'ils rentrent dans les clous.
D'accord. Sinon, est-ce qu'ils volent plus vite qu'un ULM? Parce que je sais qu'il y a des petits avions quand même qui...
Mais c'est pareil.
Oui, c'est pareil.
Mais c'est pareil. Vous avez nos avions qui deviennent ULM, volent à la même vitesse. Mmh, mmh. Vous avez des ULM de construction industrielle qui volent. Il y a le modèle ULM et le modèle avion côte à côte.
D'accord.
Et ils ont les mêmes performances. Mais bon, il y a aussi l'ULM de papa où c'était trois bouts de bois ou de ferraille.
Ce qu'on appelle les pendulaires, hein, encore aujourd'hui.
Alors les pendulaires, c'est un peu comme la planche à voile.
C'est un peu le delta plane.
Voilà, mais ça, moi, je vous parle pas de ça parce que je connais pas. Moi, je connais l'ULM style avion. Ce qu'on appelle en ULM.
En bâtique, enfin construit.
Le trois axes, voilà. C'est... Bah, effectivement, il y a des pendulaires, il y a des paramoteurs, les gars qui sont assis sous un parachute avec un moteur dans le dos.
Avec un petit bout de chiffon sur la tête. Là.
C'est des parachutes quand même.
Et voilà. Et donc vos avions, on les voit de sortie de temps en temps. Est-ce qu'il y a une journée dans l'année où on peut venir? Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte à l'AMCA où on peut venir
vous
visiter?
Non, mais ça va pouvoir se faire. Ça faudra que je vous invite.
Ah bah oui. Moi je veux bien. Voilà. Je veux bien venir faire un tour dans votre avion.
Oui, tout à fait. Et, on va faire ça.
Ouais, on va faire ça. Ça. Ah, oui. Et est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un sport de riche? Est-ce que c'est quelque chose qui, parce qu'on se dit, ça doit coûter cher quand même de construire tout
écoutez,
ça.
Ce qui coûte le moins cher, c'est la course à pied. Parce qu'avec une paire de tennis de temps en temps.
Et encore, il y a des paires de tennis de marque.
Bon, après, si vous voulez, ça coûte un petit quelque chose, mais l'heure de vol, ça coûte environ 70 euros.
Ouais.
Bon, c'est pas catastrophique.
C'est quoi? C'est au diesel? C'est au kérosène? Comment ça marche?
Non, ça marche à l'essence. Ah,
pas au kérosène, oui, quand même.
Pas au kérosène, ça marcherait dans les moteurs diesel. Mais enfin bon, les moteurs diesel sont tous très lourds. Et c'est difficile à faire passer sur un ULM. Voilà. Il y a quelques avions qui volent avec. Mais les avantages ne sont pas évidents. C'est comme maintenant, en automobile, les petits moteurs diesel sont concurrencés largement par les bons moteurs essence.
Ouais. Et l'utilisateur d'avions personnels, comme ça, là, de petits avions, son profil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se déplace d'un point à un autre ou quelqu'un qui part un peu en balade, plutôt?
Non, c'est surtout... Non, celui qui se déplace d'un point à un autre, c'est plutôt la population de l'aviation générale, normale. Et l'ULM ou les constructions amateurs, C'est souvent des gens qui se baladent comme ça, ils vont faire un tour, ils vont aller une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ils reviennent, ils vont éventuellement boire un pot à Auch ou à Albi, et puis ils rentrent, voilà ça. Mais il y en a quand même quelques-uns, mon vice-président, lui, il va souvent voir sa fille à Strasbourg.
Ouais. Oui, bon. Une question, Lénaïque, je te vois...
Non, je me demandais c'était quoi la réglementation pour prendre son avion et partir à Strasbourg comme ça, là. Il y a quand même des règles, non? Faut prévenir ou...
Ah non, absolument pas. Non.
On me fait ses valises et on part?
Oui, mais il y a quand même des règles de l'air, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il faut pas aller, il y a des endroits où il faut y aller avec la radio.
Ouais. Voilà, il y a des altitudes à respecter à certains endroits.
Il y a des
endroits.
Altitudes à respecter. Voilà,
il y a des couloirs aériens où tu peux pas passer avec ton petit avion parce que sinon t'as le beluga qui te saute dessus.
Non, ce sont des zones surtout. Ce sont des zones militaires, des zones d'aérodromes où là il faut ou prévenir. On a à bord des appareils qui donnent un code, qu'on appelle un transpondeur, qui donne un code sur le radar des contrôleurs. Ça donne l'immatriculation de l'appareil. Enfin bon, l'altitude, la vitesse.
Mais à partir du moment où on respecte ça, on prend son avion et on part, quoi.
Voilà, en France.
Oui, d'accord.
Parce que l'ELM, c'est réglementation française.
Il faut un brevet quand même, hein.
C'est un brevet.
On vole avec un permis de voler, quoi.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Parce qu'il y a la police des airs qui vient nous attraper des fois.
Oui, oh, bah...
Il y a le Mirage qui arrive à côté de toi.
Tu rigoles, mais il y a des zones où les Mirages passent très très vite.
Il y a des zones, par exemple, à partir d'Albiens jusqu'à Cossat, où on la traverse quand on va vers Cahors. Il est dit publiquement que les pilotes militaires n'assurent pas l'anti-abordage, c'est-à-dire qu'ils ont la tête dans leur truc et ils regardent pas devant eux. Voilà. Bah, il vaut mieux ne pas y aller.
Il vaut mieux éviter. Moi qui fais du parapente dans ce coin-là, qui les ai déjà vus passer, je peux vous dire qu'ils passent vite.
Mais il faut regarder la carte. Vous avez une carte avec les zones?
Oui, non, mais pas. Heureusement pas à cet endroit-là, évidemment.
D'accord.
Mais enfin, des fois, ils passent vite quand même.
Oui, puis des fois, ils sont pas tout à fait dans leur zone. Oui, mais ils sont en général très bas.
Donc, quand vous donnez des cours, c'est qui aujourd'hui qui s'intéresse à l'aviation personnelle? Comment ça s'appelle d'ailleurs cette petite aviation là?
L'aviation privée.
Oui, l'aviation privée.
Ben, il y a pas de profil.
De loisir, quoi.
Il y a de tout. Hein.
Plutôt jeune, plutôt.
Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Moi, je fais pas partie des jeunes. Ça fait 30 ans ou 35 ans que je pilote. Mais non, on a des jeunes, on a de tout.
Ouais.
Et quelques femmes, beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais...
Vous donnez des cours régulièrement, on prend contact. Alors le problème, c'est que vous avez plus de lieu, là. Donc comment on fait pour vous contacter? Ça se passe à l'aérodrome?
Les avions sont quand même quelque part.
Ouais.
Les moniteurs ont un téléphone. On est en train de mettre en place une centrale de réservation sur Internet.
Il y a beaucoup de monde qui prend des cours.
Il y a 5 ou 6 élèves en ce moment. Ouais. Mais bon.
Et c'est long d'apprendre?
Une dizaine d'heures à peu près.
Pas plus.
Pour l'ULM. Hein.
Pour l'ULM, oui.
Ah, mais c'est la même chose. Hein. Il a dit.
Pas 40 heures pour l'ULM.
Oui, mais la réglementation dit.
10 heures, on apprend quoi en 10 heures? On apprend à voler ou on apprend la théorie?
C'est
10 heures dans l'avion. Mais on doit apprendre des choses sur la théorie.
La théorie, c'est avant de voler. Ou après.
Ouais.
Oui, mais il y a un peu de réglementation à apprendre. Il y a l'usage de la radio, il y a tout ça.
D'accord. Mais c'est pas beaucoup plus que 10 heures, ça me paraît court.
Non, bah écoutez, moi je sais pas, quand j'ai appris à piloter, au bout de 7 heures, j'étais lâché, donc je me suis trouvé en l'air quand même, tout bête.
Oh bah tiens.
Parce que je trouvais l'aérodrome un peu petit.
Et alors l'atterrissage s'est bien passé.
Oui, bien sûr.
J'ai jamais eu de pépins dans 20, combien vous m'avez dit, combien de temps? 20...
Ça fait 35 ans que je pilote, non?
Jamais de pépins?
Non, j'ai fait, je sais plus, 1700 heures de vol d'avion et 300 heures d'ULM. Non, j'ai...
Pas de frayeur?
Pas encore. Ah bah, des frayeurs, quand on se retrouve des fois avec du vent de sud dans les Pyrénées, ça fait tout drôle.
Ouais. Parce que ça passe par-dessus les montagnes et ça fait des rouleaux.
Et ça fait des remous. Voilà.
Ça fait des remous. Donc là, le petit avion, il est...
Il va dans tous les sens.
Bon. Donc,
j'avais qu'à pas y aller.
Bah ouais. Il faut regarder la météo. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'AMCA, Monsieur Chassan, de trouver rapidement une solution pour avoir un local?
Écoutez, en étant pour parler avec la mairie, je pense que ça devrait aboutir assez rapidement.
Bon, en tout cas, merci.
Je ne veux pas en dire plus.
Merci d'être venu nous présenter l'AMCA.
Je vous en prie, je suis à votre disposition quand on va faire les journées portes ouvertes ou enfin. Ça...
Ouais, on viendra faire un reportage.
Non, je veux dire, voilà, calculer en direct d'un avion, ça pourrait être pas mal. Ça.
Ouais, non, ça, c'est des petits avions.
Vous allez avoir des problèmes de bruit.
Ah, ouais. Bon. Merci en tout cas, Monsieur Chastan.
Merci à vous.